Le mot philosophie, pour moi, c'est un peu la discussion des concepts les plus généraux, donc les plus vides, fréquemment. Par conséquent, il est peut-être plus juste de me définir comme anthropologue. Enfin, c'est toujours mon point de départ est quand même toujours l'homme et les rapports humains, plutôt, que l'homme, justement, en général, les rapports entre les hommes. Parce qu'au fond, c'est le désordre qui m'a frappé en premier lieu, la crise. Si vous voulez, cette crise qui joue un rôle chez les premiers philosophes, les philosophes présocratiques, à mon avis, ils parlent de la crise culturelle, du désordre causé par la violence, n'est-ce pas? Les hommes sont violents. Je pense que les hommes sont violents, non pas parce qu'ils sont particulièrement méchants, ou pire que les animaux, mais parce qu'ils sont plus intelligents. Et que le mimétisme, la faculté d'imiter, de reprendre les conduites des autres, de désirer reprendre ces conduites, de ressembler aux autres, est essentiel chez les hommes. Et son grand inconvénient, c'est que si on fait ceci, on risque toujours d'emprunter aux autres non seulement leurs attitudes, leurs grimaces, leurs conduites insignifiantes, et c'est ce dont on parle toujours quand on parle d'imitation, mais leur désir.
Académicien, oui, philosophe peut-être, anthropologue sûrement. On a appris ce matin la mort de René Girard, dont on entend ici la voix lors de cette archive INA de France Culture en 2005. René Girard avait 91 ans, il est mort à Stanford, chez lui, aux États-Unis. L'université américaine a écrit ce matin, c'était l'un des 40 immortels de la prestigieuse Académie française. Il est décédé à son domicile des suites d'une longue maladie. Dans l'hommage qu'il a rendu aux théoriciens du désir mimétique sur le site de l'association Recherche Mimétique liée à ses travaux, le coprésident Benoît Chantre écrit « Ce qu'il a découvert est immense ». Et on entendait la voix du prix Goncourt, l'écrivain Mathias Sénard, il y a un instant dans le journal, dire qu'il restera, René Girard, forcément comme quelqu'un de très important, quelqu'un dont les pensées resteront. Bonjour André Orléans.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui autour de la grande table. Vous êtes économiste, vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous n'êtes pas à proprement parler girardien, mais vous avez très bien connu l'homme et vous connaissez très bien l'œuvre. Bonjour à vous Jean-Michel Ougourlian.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous par téléphone.
Je suis très ému d'être avec vous. Je suis avec vous par téléphone et je suis surtout avec vous de cœur et avec toute la famille de René, bien sûr.
Vous êtes neuropsychiatre et psychologue. Vous avez été l'élève, l'ami de René Girard. Vous avez travaillé ensemble depuis 1973. Vous avez publié un livre ensemble
Tout à fait.
qui est resté très connu en 1978, Des choses cachées depuis la fondation du monde. Vous seul, Jean-Michel Ougourlian, avez récidivé en 1982 avec un titre qui dit tout, un mime nommé Désir. En 2008, vous avez
Absolument.
Préfacé Anorexie et désir mimétique de René Girard, qui vous a rendu la pareille en 2010,
Oui.
quand vous avez écrit Psychopolitique. C'est donc quelqu'un que vous connaissiez très bien, Jean-Michel Ougourlian.
Ah bah c'était, je dirais, mon maître absolu, ce que je l'ai toujours appelé mon maître absolu et en même temps mon meilleur ami. C'était quelqu'un d'extraordinaire à la fois sur le plan humain et sur le plan intellectuel. C'était un génie. Qu'est-ce qu'un génie? C'est quelqu'un qui regarde un phénomène que tout le monde a regardé pendant des centaines ou des milliers d'années. Des millions d'hommes l'ont vu et personne n'a rien remarqué. Et brusquement, le génie regarde. Vous savez, c'est Newton voyant tomber une pomme que des milliards d'hommes avaient vu tomber auparavant et qui brusquement découvre la gravitation universelle. Eh bien, René Girard a lu un certain nombre de grands auteurs qu'il appelle romanesques, notamment Shakespeare, Cervantes, Proust, Dostoïevski, Stendhal, et il en a, en quelque sorte, de manière fulgurante et géniale, décrit, découvert, extrait la notion de désir mimétique dont parlait Mathias Sénard il y a un instant, à savoir le désir triangulaire, le désir copié sur le désir de l'autre. On attrape non seulement les gestes, les mimiques, mais on attrape surtout les désirs des autres auxquels on adhère et à ce moment-là, la grande illusion, c'est de les prendre pour les siens propres, alors qu'on vient de les copier sur celui de l'autre.
André Orléans, la chose qui frappe d'emblée quand on entend déjà parler Jean-Michel Gourlian et qu'on vient d'entendre parler Mathias Hénard, c'est que il était anthropologue, mais on voit bien qu'il a inspiré, ou qu'en tous les cas, les étudiants de partout ont planché sur son travail, qu'ils viennent de la neuropsychiatrie comme Jean-Michel Gourlian, qu'ils viennent de la littérature comme Mathias Hénard, qu'ils viennent naturellement de la philosophie ou de l'anthropologie, ou bien même comme vous, qui êtes économiste. C'est la très très large diversité des personnes qui se réclament, d'une façon ou d'une autre, hein, du désir mémétique de René Girard.
Oui, c'est un des faits les plus extraordinaires à propos de René Girard, c'est comment en effet cette hypothèse de base qui vient d'être rappelée, celle du désir mimétique, a pu toucher toutes les disciplines. Mais ça se comprend d'une certaine manière parce que toutes les disciplines des sciences humaines et des sciences sociales sont intéressées par ce type de processus. Donc il était au fond assez normal que chacun s'en empare. Mais je dirais plus qu'anthropologue, il s'est présenté comme anthropologue, mais faut pas oublier qu'au départ c'est un professeur de littérature. Et je crois que c'est quand même assez intéressant à réfléchir à ça, c'est-à-dire que son concept de désir mimétique qui va avoir tellement d'effets pour les sciences sociales, au départ, provient d'une réflexion sur la littérature, sur les romans, sur Stendhal, Proust, Dostoïevski. Et donc c'est qu'il a réussi à élaborer à partir de cette réflexion sur la littérature des choses universelles en fait. Et je trouve que c'est assez parlant parce que ça contredit une espèce de scientisme au fond qui penserait que les grandes découvertes scientifiques ne se font que avec des mathématiques ou dans des laboratoires. Et là, on voit comment un esprit curieux, libre et constructeur peut, à partir même du matériau de la littérature, construire une œuvre scientifique.
On peut même aller plus loin, André Orléans, quand on entend René Girard expliquer d'où vient cette théorie du désir mimétique. Oui, de la littérature, mais aussi de son expérience personnelle. Écoutez-le, toujours dans cet archive de 2005.
C'était quelque chose de très banal, au fond. C'était une aventure avec une jeune fille où j'ai découvert que lorsqu'elle s'offrait à moi et en fait me proposait le mariage, je reculais, je partais. Et lorsque mon attitude la décevait et qu'elle décidait de se détourner définitivement de moi, je revenais. Donc c'était très exactement le mouvement proustien. Vous voyez, lorsque Albertine n'est pas là, il est fou d'amour. Et lorsqu'Albertine revient, il ne cherche qu'à se débarrasser d'elle.
Oui, mais alors qui imitiez-vous là? Quel était le modèle?
Le modèle, c'était la personne que vous aimez, la jeune fille, etc., peut être à la fois objet et modèle. Dans la mesure où elle se refuse, elle dit « je suis supérieure à toi, je me suffis à moi-même ». Et par conséquent, elle peut devenir à la fois modèle et objet dans ces cas-là. Il n'y avait pas vraiment de rival, mais lorsque le modèle et l'objet ne font qu'un, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle la coquetterie. La femme, secrètement, le sait qu'elle doit se refuser pour se transformer en modèle. Et en français, il y a un nom magnifique qui est la coquetterie, que Proust n'a pas beaucoup utilisé. Parce qu'il était... Mais alors, pour parler de coquetterie comme il faudrait parler du désir mimétique chez des gens comme Marivaux. Si on regarde les pièces de Marivaux, la façon dont la femme se dérobe pour se faire désirer, n'est-ce pas, c'est l'essence même de ce qu'on appelle le marivaudage. Et si on réfléchit un peu là-dessus, on s'aperçoit que c'est très 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 simple, qu'il faut partir pour causer le désir de l'autre. Voilà, et puis revenir, etc., et que tout le jeu de la coquetterie est là.
Voilà, René Girard au micro d'Olivier Germain Thomas. Tout est dit, hein, André Orléans, de la littérature et du désir humain.
Oui, et en plus, ce qu'on voit ici, c'est le talent de conteur qui était propre à René Girard. C'était un conférencier vraiment hors pair. Il savait saisir son public par ses histoires, par sa connaissance, son érudition en anthropologie, en littérature, et il était très, très, très fort. Oui, là, on voit les notions de base du désir mimétique tel qu'il a construit à partir de cette idée de la vérité romanesque. N'oublions pas que dans Vérité romanesque, dans le titre du livre, c'est Mensonge romantique et vérité romanesque.
1961.
1961, oui, ou deux, je ne sais plus. Mais enfin, c'est son premier livre, son premier grand livre, et que son but, c'était de montrer pourquoi il dit mensonge romantique, parce que il y a une idée qui combattait très fort, qui était l'idée que l'individu aurait été maître de son désir, et qu'en fait, dans le désir, il serait pas triangulaire, mais il serait un sujet par rapport à un objet, et que comme dans le héros romantique, c'est pour ça qu'il parle de romantisme, le héros romantique, on a l'impression qu'il est apte à définir ses propres désirs et ses propres fins, qui sont une émanation de son moi souverain absolu. Et c'était ça qu'il essayait de, dont il essayait de montrer que ça ne fonctionnait pas du tout, cette idée d'une espèce d'autonomie ontologique de l'individu capable de définir la loi de son désir. Eh bien, il disait non, c'est pas du tout comme ça. En fait, on est toujours socialisé, y compris dans justement dans ses désirs. On est toujours en interaction, et la personnalité humaine, le choix des désirs en particulier, provient des interactions avec autrui. Et c'est pour ça que moi, en tant qu'économiste, ça m'a évidemment beaucoup intéressé, parce que c'est une hypothèse de base qui, en fait, va tout à fait contre l'idée, si je peux aller vite, d'homo economicus, puisque l'homo economicus de la théorie économique est précisément comme l'individu romantique. Il est décrit comme un individu souverain qui connaîtrait de tout temps ce qu'il désire, quels sont ses besoins, etc. Alors qu'avec l'hypothèse d'individu mimétique, on a quelque chose de beaucoup plus riche du point de vue des sciences sociales, puisqu'il s'agit de décrire des interactions et de comprendre que le désir n'est pas simplement quelque chose qui serait donné dans l'individu, dans sa nature, mais qu'il est lié aux interactions. Ce qui fait d'ailleurs une des particularités de ce désir, c'est qu'il est par nature infini. Il est différent du besoin. La première logique, on pourrait dire, c'est une logique des besoins, où vous choisissez un objet parce que bon, vous avez faim ou je ne sais quoi. Tandis que dans la logique du désir mimétique, il n'y a jamais de fin, il n'y a pas de finitude, puisque vous êtes en conflit avec autrui dans ce que les sociologues ont appelé des luttes de classement, c'est-à-dire toujours vouloir montrer par la possession des objets que vous êtes supérieur à autrui. Et donc il y a une espèce de concurrence entre le soi et les autres, concurrence mimétique qui permet d'expliquer ce désir infini d'objets toujours plus élaboré, mais on n'en finit pas d'en désirer d'autres, précisément parce que c'est un marqueur sur une échelle sociale dont on veut toujours monter les échelons.
Jean-Michel Gourlian, sur ce désir humain individuel qui rencontre le fonctionnement de notre société, c'est là-dessus que René Girard a travaillé toute sa vie.
Oui, alors non, il a travaillé naturellement à partir de cela, mais il a élaboré donc cette théorie du désir mimétique que j'appelle sa théorie psychologique ou psychosociologique. Mais ensuite, il a fait une théorie anthropologique qui est celle de la violence et de la victime émissaire. C'est-à-dire, le fondement des cultures, pour lui, c'est l'union de tous contre un seul, parce que lorsque la violence s'est déchaînée et que la communauté est en crise, qu'il appelle une crise mimétique ou une crise culturelle, une crise violente qui abolit les différences, eh bien, à ce moment-là, brusquement, par un mécanisme, psychosocial, l'ensemble de la communauté se rassemble contre une victime, qu'il appelle la victime émissaire, et dont la mise à mort fait revenir le calme. Et c'est à partir de ce moment-là que peut s'élaborer la culture, et cette mise à mort est ensuite réinterprétée par les lyncheurs comme tous les mythes de la planète, comme étant la visite d'un dieu qui est reparti ensuite en portant avec lui dans l'espace sacré, n'est-ce pas, la violence de la société. Et il faut ensuite faire des rites et des rituels pour éviter que cette violence ne revienne dans la cité et pour favoriser le fait qu'elle reste sous la garde du Dieu dans l'espace sacré. Donc il y a deux grandes théories, si vous voulez, chez René. Une théorie de base qui est celle du désir mimétique, qui effectivement, comme vient de le rappeler André Orléans, entraîne le fait que deux désirs portant sur le même objet entraînent bien entendu la rivalité des deux protagonistes qui par conséquent se trouvent à désirer le même objet et donc entrent en conflit, entre rivalité. C'est le principe même de la naissance de la violence. C'est pour ça que René Girard tout à l'heure disait dans votre archive, n'est-ce pas, que finalement les hommes sont pas particulièrement violents parce qu'ils sont méchants, mais parce que simplement ils sont plus intelligents et donc plus mimétiquement habiles à s'imiter les uns les autres et à porter leurs désirs sur les désirs de l'autre et donc sur les objets de l'autre et donc à vouloir éliminer l'autre pour lui dérober ce qu'il a. Et en fait, si vous voulez, finalement, depuis 40 ans que j'y réfléchis, dans les recherches que nous avons faites ensemble, a fini par arriver à l'idée très simple que la sagesse, finalement, c'est quoi ? C'est de désirer, je dis bien, ce qu'on a déjà. C'est-à-dire d'attacher du prix à ce qu'on a déjà, et non pas seulement à ce que l'autre a. Voilà. Et ça permet, si vous voulez, d'avoir un apaisement intérieur, qui est, à mon avis, le premier pas vers la sagesse, et d'ailleurs ça avait déjà été dit par saint Augustin, figurez-vous, il y a bien longtemps de cela, mais sans explication psychosociale à l'appui. Donc il y a deux théories chez René Girard, je le répète, il y a deux grandes intuitions, il y a deux grandes hypothèses qui sont toutes les deux géniales. La première, c'est l'hypothèse donc du désir mimétique, la deuxième, celle de la victime émissaire, qui est la source de toutes les cultures, de toute l'élaboration culturelle, et c'est ce qui permet, si vous voulez, c'est ça qui est extraordinaire, d'expliquer comment les êtres humains ont pu survivre à leur propre violence. Parce que les animaux ont un mécanisme inné, induit, engrainé dans leur système génétique qu'on appelle les dominance patterns, qui fait que les animaux ne s'entretuent pas bêtement pour tout et pour rien, ils ne se massacrent pas. Les lions, quand ils tombent sur un troupeau de gazelles, ils en mangent une, mais ils ne les tuent pas toutes. Tandis que les hommes, eux, ont tendance à se massacrer. Et donc, qu'est-ce qui a pu faire en sorte que les êtres humains survivent à leur propre violence, non pas un mécanisme génétique, mais un mécanisme socio-culturel que René Girard a découvert et qui s'appelle le mécanisme de la victime émissaire. Et il a ensuite, bien sûr, appliqué cette théorie et à toute la lecture de la Bible et des évangiles. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je pense que René Girard n'est pas parti de la chrétienté et des Écritures pour arriver à sa théorie. C'est l'inverse. Ce sont ces théories qui ont été ensuite, par lui, appliquées à la lecture de la Bible et des évangiles.
Jean-Michel Augourlian, sur cette figure du bouc émissaire qu'il a théorisée dans La violence et le sacré en 1972, je voudrais vous proposer d'entendre à nouveau la voix de René Girard. Cette fois, c'est une archivina de 2001, un avoinu de France Culture.
Lorsque j'emploie le terme bouc émissaire, je ne pense pas d'abord au Lévitique. Je ne pense pas à ce sens-là. Je pense au sens vulgaire où nous employons le terme bouc émissaire. Lorsque nous disons « un tel est le bouc émissaire », au bureau, etc. Oui. Ça veut dire tout le monde le persécute sans au fond savoir pourquoi, sans vraiment comprendre qu'on le persécute et qu'il est innocent, n'est-ce pas ? Et ce sens-là apparaît dans le littré. Le premier exemple vient de l'historien Saint-Simon. Enfin, l'historien Saint-Simon dit « Madame une telle est le bouc émissaire de son propre salon ». C'est admirable comme formule. Employer le terme « rituel » pour désigner un phénomène psychosocial. L'intérêt du phénomène, c'est qu'il n'est pas psychologique seulement, puisqu'il faut qu'on soit plusieurs pour avoir un bouc émissaire. Mm-hmm. Et il n'est pas social seulement, puisqu'il y a un phénomène psychologique chez chaque individu. Donc il est l'intermédiaire entre le un et le tout. Oui. N'est-ce pas ? Donc il est d'une importance sociale prodigieuse, parce qu'il est le passage de la violence désordonnée, de tous contre tous, à la violence de tous contre un. Et je dirais la preuve que nous comprenons ce que sont les rites, c'est que nous utilisons bouc émissaire comme nous le faisons. Le dictionnaire vous dira que le sens vulgaire aujourd'hui, c'est le sens dérivé. Mais moi je dirais pas du tout, c'est le sens originel. C'est le fait que les hommes sont capables de transmettre leurs tensions, leurs agressions sur un tiers. Et plus ils sont nombreux à le faire, plus ils sont convaincus qu'ils ont raison. Parce que chacun trouve la conviction dans le regard de l'autre. Le dangereux du social, c'est ça. Et en même temps, le social originel, sans doute, est forcément lié à ça.
France Culture, la grande table, Caroline Brouet.
Nous rendons hommage à l'anthropologue René Girard, disparu à l'âge de 91 ans, dont on a appris la mort ce matin très tôt. Nous sommes entourés d'André Orléans autour de la table, économiste, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, et de Jean-Michel Augourlian, qui est avec nous par téléphone, qui est neuropsychiatre et psychologue et qui fut l'élève et l'ami de René Girard pendant très longtemps. André Orléans, il y a un aspect des choses que nous n'avons pas encore abordé, c'est le fait qu'il a très longtemps vécu presque toute sa vie finalement d'adulte, aux États-Unis. Il a reçu un accueil plutôt glacial en France dans le monde académique. Bon, certes élu à l'Académie française en 2005, mais élu et étudié par des générations d'étudiants, qu'ils soient anthropologues, économistes, littéraires ou neuropsychiatres. Mais malgré tout, il a été assez mal perçu en France et il a eu beaucoup plus de renommée aux États-Unis. Pourquoi être parti aux États-Unis ? Pourquoi tant de renommée aux États-Unis si peu en France, selon vous ?
C'est une question difficile. D'abord, ça demande des connaissances biographiques sur René Girard que je ne maîtrise pas tout le temps. Et tous, je crois que Jean-Michel Gourlian pourra nous donner des informations plus précises. Mais d'abord, il faut quand même se souvenir qu'il est parti très tôt aux États-Unis, donc avant même d'avoir... je pense que ça doit dater à peu près du premier livre, quelque chose comme
je
ça.
Je crois que c'est même un peu avant, mais je vais me tourner vers Jean-Michel Gourlian qui connaît bien mieux les choses que nous. Je crois qu'il est parti aux États-Unis en 1947 et qu'il a intégré l'université Johns Hopkins de Baltimore en 59.
C'est ça, il est parti aux États-Unis, il a commencé par enseigner donc le français, il était professeur de français, notamment dans l'Indiana, l'université d'Indiana, ce qui est extraordinaire parce que c'est un trou perdu, si je puis dire. Mais donc il est parti en 1947 après avoir fait l'école des Chartes, n'est-ce pas, à Paris. Mais ce qui me paraît extraordinaire, c'est qu'au fur et à mesure, il a tout découvert par lui-même, par ses lectures, parce qu'il voulait enseigner aux étudiants, et donc il voulait leur extraire la substantifique moelle des textes qu'il leur enseignait, qu'il leur faisait découvrir. Et aujourd'hui, nous avons, depuis des années, aux États-Unis, cette pensée de René Girard qui a traversé pratiquement toutes les sciences humaines en les fertilisant et en les éclairant. Toutes les sciences humaines, la théologie jusqu'à la sémiologie, la littérature, la psychiatrie, la psychologie, l'économie même, comme vient de le rappeler André Orléans, la sociologie, enfin bref, toutes les sciences humaines ont été fertilisées et transformées. Alors pourquoi, pour répondre à votre question plus directement, pourquoi en France il était plutôt, pendant des décennies, négligé, alors qu'aux États-Unis il était vraiment formidablement connu, le livre que nous avions fait ensemble, Des choses cachées depuis la fondation du monde, a été traduit en 35 langues, a fait un succès au Japon, aux États-Unis, partout dans le monde. Parce que, pour deux raisons, je pense. La première, c'est que nous avions dans le livre 3 de Des choses cachées pris position vraiment pour une nouvelle psychologie qu'on appelait interdividuelle, c'est-à-dire psychologie relationnelle, psychologie des rapports humains, plutôt qu'une psychologie du sujet, donc une psychologie freudienne. Et par conséquent, comme l'université française était dominée, peut-être l'est toujours, par la psychanalyse, il a été en quelque sorte ostracisé et comment dirais-je, mis à l'index de l'enseignement de la psychologie et de la psychiatrie, premièrement. Et deuxièmement, ensuite, lorsque sa théorie de la victime émissaire, il s'est mis à l'appliquer à la lecture de la Bible et des évangiles, alors là, il a commis le péché suprême aux yeux d'une certaine intelligentsia française, et on l'a accusé d'être chrétien, calotin, comme il disait lui-même, en rigolant. Et ce sont les deux raisons pour lesquelles il était peu connu, ou en tout cas peu publicisé en France, alors qu'aux États-Unis, au Japon, en Allemagne, en Autriche, enfin dans tous les pays, en Amérique du Sud, au Brésil, il était vraiment extrêmement connu, extrêmement sollicité, et extrêmement respecté et admiré. Mais je pense que la France finira par le découvrir un jour.
André Orléans.
Oui, il faut quand même citer un nom qui est très important dans la réception française de René Girard, c'est Jean-Pierre Dupuis qui est un des premiers
qui est parti ce matin aux États-Unis dès qu'il a appris le décès.
Absolument, oui,
de
qui
son
était
ami.
Très très proche de René. Il est professeur à Stanford aussi et donc il se voyait tout à fait régulièrement et qui est un de ceux, je crois, qui a introduit les pensées de René Girard en France avec son livre L'Enfer des choses qui doit dater de la fin des années 70 et qui a quand même autour de lui créé un centre qui s'appelait le CREA dans lequel il y avait beaucoup de discussions entre anthropologues, entre économistes, entre sociologues autour de l'œuvre de René Girard. Donc il y a eu quand même une réception française, donc assez tardive hein, puisqu'elle est au début 80, qui a été assez importante. D'autre part, le livre d'entretien avec Jean-Michel Gourlian a aussi un assez grand succès en France. Je pense qu'à cette époque époque-là, il a commencé à être un peu plus connu. Mais c'est vrai qu'ensuite, sa méthode de pensée, en particulier les anthropologues, ont été assez opposés. On lui a opposé aussi non seulement ce qui vient d'être dit à propos de la religion et du rapport au catholicisme, ça a été aussi l'idée qu'il y avait un système, l'idée que chez Girard, il produisait une pensée en quelque sorte systémique, unique de l'ensemble du social. Et ça, c'était extrêmement mal vu dans une période où on était justement contre l'idée qu'il y a des grands systèmes, de ces pensées totalisantes qui paraissaient un peu absurdes. Et donc, de ce point de vue-là, il était assez à contre-courant, hein, dans la mesure où justement, comme on l'a dit au départ, il essayait de prendre son concept de base, il essayait de l'étendre le plus possible. Et moi, je trouve que cette remarque n'est pas très fondée, parce que je dirais qu'au contraire, le chercheur qui essaye de prendre ses concepts et de les étendre le plus possible, c'est le chercheur qui prend le plus de risques. Le chercheur qui prend le moins de risques, c'est-à-dire, oui, ce concept, il est valable uniquement pour tel lieu, telle époque, que le chercheur en question connaît bien mieux que tout le monde, donc c'est très difficile de dire qu'il a tort, alors que quand vous essayez d'en faire une hypothèse générale, alors évidemment, plein de gens vont venir et discuter avec vous parce que ils pensent que ce n'est pas valable. Donc je trouve, moi, que c'est plutôt productif, même s'il a été très critiqué.
Mais il a surtout été critiqué parce qu'on lui a reproché justement de faire valoir plutôt ses convictions chrétiennes que sa recherche en sciences sociales. On lui a reproché de faire un peu de la propagande, pour le dire clairement.
Je l'ai assez bien connu dans les années justement 80, disons ces 10 dernières années, je l'ai moins vu, moins souvent. Mais mon souvenir des années 80, c'était pas du tout ça. D'ailleurs, dans le livre d'entretien avec Jean-Michel Ougourlian, c'est très clair. C'est-à-dire que la question du catholicisme, enfin, ou de la chrétienté, était très à part. Et je veux dire, c'est pas ça que je veux dire. C'est que il avait une idée que ce qu'il disait relevait de la science. Et donc, il fournissait des hypothèses sur justement la nature de la victime émissaire, qu'on pouvait tester. En particulier, une de ces hypothèses importantes, c'est l'ambivalence des dieux qui sont à la fois bons et méchants. Donc, c'était une hypothèse, des hypothèses qu'on pouvait tester. Et donc, il n'était pas du tout dans l'idée qu'il y avait une nécessité de la foi. C'était tout autre chose. Il y avait vraiment un cadre ici qui me paraissait celui de la science. Je pense que Jean-Michel Ougourlian devrait...
Confirmez ce que vous dites, Jean-Michel Ougourlian.
Oui, je confirme et j'approuve évidemment totalement. Si vous voulez, René Girard lisait les écrits religieux, la Bible et les évangiles, totalement indépendamment de toute question de foi. Il les lisait comme il lisait les rapports de Lévi-Strauss sur les mythes sud-américains ou le cannibalisme topinambas, n'est-ce pas? Il voulait simplement montrer que le mécanisme est toujours le même, et simplement mettre en exergue, et c'est ça qu'on lui a peut-être reproché, on a dit qu'il était chrétien, il n'était pas spécifiquement propagandiste du catholicisme, bien qu'il eût la foi, bien entendu, mais c'est un autre problème. Il voulait simplement montrer que la simple différence du mécanisme victimaire entre les religions primitives et le récit de la passion, c'est que dans les religions primitives, on divinisait une victime, alors que dans le récit de la passion, on victimisait un dieu. C'est-à-dire que dans le récit de la passion, dès le début, on savait que la victime était innocente, alors que dans les récits mythiques, dès le début, on sait que la victime est coupable et que quand elle est enfin morte, c'est là qu'elle se transfigure et qu'elle devient divine.
Il va falloir relire Jean-Michel Ougourlian, votre livre, en 1978, avec René Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde, parce que nous arrivons au terme de cet entretien, de cette émission en hommage à René Girard. Je vous remercie beaucoup d'y avoir participé avec nous par téléphone. Merci beaucoup à vous, André Orléans, d'être venu jusqu'à nous pour parler de René Girard. Je renvoie les auditeurs également, non seulement au livre, bien sûr, de René Girard, hein, Mensonges romantiques et vérités romanesques, ou encore La violence et le sacré, mais aussi au hors-série que va faire paraître Philosophie Magazine, hors série consacrée à ce penseur du désir et de la violence. Et puis il y a aussi un colloque organisé à la Bibliothèque Nationale de France qui aura lieu samedi 7 novembre, soit après-demain, Le désir de l'autre, René Girard et Michel Henry, sous la présidence de Benoît Chantre. Bien entendu, demain matin, les émissions sur France Culture en hommage continu, demain matin spécial chez Guillaume Herner, Les nouveaux chemins de la connaissance, vendredi prochain. et la rediffusion d'À Voix Nue toute la semaine prochaine.